7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une aventure singulière, peu connue du grand public, celle de centaines de milliers d'enfants au Venezuela, grandis dans des quartiers pauvres, d'un des pays les plus violents au monde, et qui découvrent la musique classique d'orchestre, très jeune, grâce au Sistema, un réseau d'écoles né il y a plus de 40 ans, bien avant l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, et qui propose l'apprentissage de la musique comme un droit social, pour reprendre les propos de son fondateur, le maestro Abreu. Alors comment des enfants nés dans des bidonvilles peuvent se passionner un jour à 10 ans pour un instrument aussi difficile à apprivoiser que le violon par exemple? Comment le Sistema a donné naissance à un orchestre international, le Bolivar, et surtout à un jeune chef d'orchestre que les plus grandes salles de concert s'arrachent désormais de Milan à Los Angeles, le célèbre Gustavo Dudamel, vénézuélien donc, que rien ne prédestinait à la musique classique de Mahler ou Mozart, et qui a trouvé sa vocation de chef, car ses bras étaient trop petits pour l'instrument qu'il avait choisi tout petit, qu'il avait choisi enfant, le trombone. Le Sistema, cette formation exigeante et collective dans un Venezuela qui a sombré dans la grande pauvreté, a désormais essaimé aux quatre coins du monde, beaucoup dans des pays en développement, et il interroge la vieille Europe. Le Sud peut-il rajeunir la musique classique, en proposer une autre lecture, une autre émotion? Nous allons en discuter avec vous, Vincent Agrèche, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous signez une magnifique et vaste enquête reportage, Un orchestre pour sauver le monde, voyage au cœur du Sistema, du Venezuela à la France, le miracle de l'éducation par la musique, aux éditions Stock. Cette enquête vous a conduit à beaucoup voyager, à découvrir des parcours tout à fait improbables, vous nous en citerez quelques-uns j'espère. Vous êtes au départ critique musicale pour la revue Diapason. Le monde de la musique classique est un monde excluant, étanche, de passion feutrée. Votre enquête a été plutôt rafraîchissante, non ?
Oui, du moins c'est l'image que le monde de la musique classique peut projeter d'un monde très fermé, qui demande des codes extrêmement précis pour pouvoir y adhérer, particulièrement dans les grandes capitales européennes. Et j'ai eu la chance de pouvoir, grâce à mes activités de critique, voyager énormément dans des pays qui redécouvre la musique classique d'une autre manière, et en particulier dans les pays d'Amérique latine, vous le disiez tout à l'heure, les pays du Sud réinventent la musique classique européenne. Les pays du Sud, mais aussi, on pourrait dire, les pays de l'Est, du très grand Est, parce qu'il y a des choses très importantes qui se jouent également en Extrême-Orient. Mais j'ai eu la chance, il y a déjà presque une vingtaine d'années, de commencer à voyager en Amérique latine, de découvrir la manière dont, dans un pays comme le Venezuela, les musiques populaires et les musiques du grand répertoire d'origine européenne communiquaient d'une manière extrêmement naturelle. Et petit à petit, je me suis intéressé à cette aventure du Sistema, aux grands musiciens qu'elle produisait. J'ai eu la chance de pouvoir retourner au Venezuela et me rendre dans ces écoles de quartier
et dans
certaines
villes. Et dans d'autres pays du monde. D'ailleurs, combien de pays vous avez parcouru pour cette enquête?
J'ai dû visiter, je pense, une bonne douzaine de pays entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, et le Proche-Orient.
Nous serons également en ligne avec Armand Diangenda. Alors là, c'est une toute autre histoire. Il est chef de l'orchestre symphonique de Kinshasa en République démocratique du Congo. Et puis en fin d'émission, comme chaque lundi, l'Afrique qui gagne, portrait d'une très jeune chef d'entreprise à Ouagadougou, Khadija Simboro, ingénieure diplômée. Elle a appris le commerce dans l'arrière-boutique de sa maman et elle lance avec son frère Yélène Cash un système de kit solaire installé dans les habitations pour permettre aux familles d'avoir de l'électricité moyennant un tarif de location. Mais tout de suite, on revient donc avec vous Vincent Agrèche à la musique comme émancipation sociale, El Sistema.
Thank you.
C'est la ferveur d'un match de foot pour de la musique symphonique. Mambo composé par Leonard Bernstein pour la comédie musicale West Side Story, dirigé par le chef désormais mythique, produit du système vénézuélien, Gustavo Dudamel. Il faut voir les voisins, les voisines, si vous prenez l'émission en cours de route, il faut voir absolument cette vidéo. On a mis le lien sur nos réseaux sociaux qui est incroyable si on ne connaît rien à l'histoire du système, donc ce réseau d'écoles de musique vénézuélienne. Vous voyez la vidéo et vous comprenez le résultat. Et la ferveur.
Oui, c'est un peu tout le temps comme ça. Ce qui est absolument fascinant quand on se rend dans un concert symphonique au Venezuela, c'est de voir le public qui participe.
Très jeune.
Le public est très jeune. Un public qui est composé. Mais les musiciens sont très jeunes aussi, de toute façon. Donc, les musiciens sont des grands adolescents ou de jeunes adultes. Et dans le public, vous avez les frères et sœurs, les parents, les enfants, pour certains d'entre eux. Déjà, donc, c'est un public qui est très familial, extraordinairement enthousiaste. Moi, j'ai pu assister à Caracas à des concerts absolument extraordinaires, notamment un qui était en théorie interdit aux plus de 5 ans. Alors en fait, les parents étaient quand même autorisés dans l'auditorium, mais le programme était composé spécialement pour des jeunes enfants, pour des bébés et des tout petits enfants, c'est-à-dire habituellement ceux qu'on ne voit pas dans les salles de concert
mais
en
dans
Europe,
les crèches, ouais.
Pour leur donner vraiment le goût de la musique orchestrale. C'était une ambiance absolument hallucinante. On voyait les jeunes papas, les jeunes mamans qui portaient leurs bébé à bout de bras pour qu'il voit bien l'orchestre sur le plateau. Et ça avait un côté festif absolument hallucinant. On sortait du caractère extrêmement compassé qu'on peut trouver dans
les salles de concert européennes. Oui. Et très élitiste surtout hein, en Europe. Comment fonctionne le système? Comment il est né au Venezuela?
Il est né quand même dans un pays qui a une histoire assez particulière, puisque le Venezuela est quand même un grand pays de musique à l'origine. C'est un pays qui a un patrimoine de musique populaire absolument fantastique. Un pays qui s'est intéressé assez tôt, en fait, à la musique symphonique. Le Venezuela, comme on le sait, s'est énormément enrichi dans le courant du XXe siècle grâce au pétrole, qui en a fait un des pays les plus riches d'Amérique latine, et a commencé à développer des orchestres symphoniques de manière assez intensive après la Deuxième Guerre mondiale.
Et le système a né dans les années 70, d'ailleurs, en 75, au moment où il y a l'argent du pétrole.
Absolument.
Donc financé entièrement par l'État.
Alors, financé par l'État et aussi par des privés, dans un contexte de grande d'abondance. C'est un musicien, à la fois un musicien et un homme politique, José Antonio Abreu, qui était à la fois économiste, ministre et musicien de haut niveau d'ailleurs, qui dans les années 70 commence à créer un orchestre de jeunes qui à l'origine est plutôt destiné aux élèves du conservatoire de Caracas, donc plutôt des jeunes gens de la classe moyenne, voire des classes supérieures, et qui petit à petit va étendre ce projet vers les enfants issus des quartiers populaires, voire même des bidonvilles. Et le génie de José Antonio Abreu va être, au fur et à mesure que l'économie vénézuélienne se dégrade, à partir du milieu des années 80, il y a une chute brutale des cours du pétrole et donc une dégradation très très forte de l'économie du pays. Il va réussir à convaincre les différents gouvernements qu'il faut continuer à investir sur l'éducation musicale et toucher au travers de cette éducation des enfants qui sont issus de quartiers extrêmement difficiles pour lutter contre la violence, pour lutter contre l'influence des gangs de narcotrafiquants qui commencent à gangréner le pays. Et donc, au lieu de s'étioler avec l'économie vénézuélienne, le système va continuer à grandir au fil de la décennie 80-90 et à partir de l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez.
Et donc, il va y avoir des centaines de ce qu'on appelle des nucléos, c'est-à-dire de toutes petites écoles de musique, c'est ça, qui peuvent être dans des villages d'ailleurs assez reculés au Venezuela.
Un nucléo, c'est un peu une maison de quartier à la base. C'est un peu comme certains des centres sociaux et des centres familiaux qu'on peut rencontrer dans nos banlieues ou dans un grand nombre de pays. Mais le cœur de l'activité du nucléo, c'est la musique. C'est-à-dire quand vous allez dans un bidonville du Grand Caracas, vous passez la porte du nucléo, qui est souvent un bâtiment très simple. Vous allez trouver des mamies qui viennent là pour passer la journée, des enfants qui jouent au foot, mais aussi et surtout des enfants qui font de la musique et qui en font de manière très intensive, c'est-à-dire qu'ils vont travailler leur instrument et travailler en orchestre ensemble facilement 20 heures par semaine. Ils n'ont école que le matin, au Venezuela le système scolaire est organisé de cette manière-là, et donc l'après-midi le nucléo est ouvert et donc ils peuvent
venir. Donc évidemment ça occupe, hein, pour les familles c'est aussi le moyen d'extraire les enfants des tentatives de gangs, de violences, etc.
C'est la raison pour laquelle les familles
Il y a beaucoup de témoignages et d'histoires
d'enfants au Nucléo.
Il y a beaucoup de témoignages et d'histoires dans votre enquête. Par exemple, il y a Gaudí José Sanchez Moreno qui a 36 ans, qui joue maintenant à Vienne, hein, sur les scènes internationales, me semble-t-il.
Il joue dans le Bolivar, oui. Et il donne. En fait, il vient d'ailleurs régulièrement en France. Gaudí, il parle d'ailleurs très bien français. Et il vient donner des cours maintenant dans les conservatoires européens, alors que lui-même est né dans un petit village à la frontière du Venezuela et de la Colombie.
C'est ce qu'il vous raconte. Je viens d'un village de 1000 habitants à la frontière colombienne. Mon père cultivait des tomates. Ma mère était l'institutrice de la commune. Pas de musicien dans la famille, sauf une cousine. Moi, j'adorais ça. Je jouais du piccolo dans la fanfare locale. Quand soudain, en 1991, un Nucléo ouvre au village, j'ai pu y réaliser mon rêve de gosse, jouer de la trompette. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un trompettiste de renommée internationale.
Absolument. Et dans son histoire...
Et il y en a des centaines comme ça.
Il y en a des centaines comme ça. Mais ce que vous remarquez dans son histoire, c'est qu'il parle quand même de la musique dans la fanfare. Et une des grandes raisons du succès du sistema vénézuélien, et du succès d'ailleurs des projets, puisqu'ils sont nombreux à travers le monde, qui s'inspirent du sistema, c'est de savoir... capter les enfants au travers de la musique qui existe dans le village, de la musique populaire, et de les amener vers d'autres répertoires, dans d'autres directions, vers une autre exigence aussi dans leur pratique instrumentale, sans créer un clivage artificiel entre la musique familiale et un répertoire qu'ils vont découvrir au fil des années.
Et c'est tout le génie du sistema d'ailleurs, hein. Oui. C'est de ne pas donner un sentiment de rupture ou d'exotisme par rapport à cette musique classique, qui est en même temps, Mozart, c'est pas non plus la culture locale. On verra comment on procède, comment on amène les enfants en douceur, et puis surtout comment on accède aux instruments. C'est quand même assez cher. Aujourd'hui, le Venezuela est en banqueroute. Le sistema est une école de musique ou un projet politique, dans le fond ?
Je ne sais pas si le terme de projet politique est le plus adéquat, parce que précisément dans le contexte du Venezuela, il peut donner l'impression que c'est un projet au service d'un pouvoir, ce que malheureusement il a un peu fini par devenir, mais à l'origine c'est surtout un projet humaniste. José Antonio Abreu, qui a fondé le Sistema, est lui-même pétri de culture jésuite. C'est un laïc jésuite. L'idéologie jésuite est très très importante en Amérique latine. Lui-même a mené une vie laïque, mais il est très très imprégné par le mysticisme et l'idéologie jésuite, qui donne une très grande place aux idées de perfectionnement, de travail, de collaboration.
Et ça a bien cohabité avec le chavisme ensuite.
Et ça a bien cohabité avec le chavisme, je dirais, dans un premier temps, mais ça a été aussi une espèce de coup de poker fabuleux d'Abreu, qui, lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, se voyait plutôt désigné comme le représentant du vieil élitisme bourgeois, et qui a su convaincre Chavez qu'il tenait, en fait, avec le Sistema, un formidable projet de développement culturel et social, et qu'au lieu de le bazarder comme le chavisme a fait avec l'essentiel des institutions culturelles vénézuéliennes, il fallait encourager le Sistema et l'aider à grandir. Ce faisant, il a quand même signé un petit peu un pacte avec le diable, qui a fini au fil des années par se retourner contre le Sistema, qui est dans une situation extrêmement complexe aujourd'hui du point de vue politique.
En même temps, vous avez assisté à l'hymne national en 2015, 4000 voix du chœur d'un des orchestres nationaux du Sistema qui entonne l'hymne national.
Oui, c'était à l'occasion des 40 ans du Sistema, mais quelque part ce moment était plutôt un moment de communion nationale autour de l'anniversaire du Sistema, et un moment de grand rassemblement patriotique. Les Vénézuéliens sont, comme beaucoup d'ailleurs de latino-américains, très patriotes, plutôt qu'un moment d'engagement auprès du pouvoir. Très rapidement d'ailleurs après cet anniversaire, on commençait à apparaître les premières tensions avec le pouvoir. Dans un premier temps, il y avait une espèce de pacte entre Abreu et Chavez qui était « ok ». Le Sistema est une espèce de vitrine du pouvoir et de la réussite culturelle et sociale du Venezuela, mais vous nous laissez gérer le Sistema selon nos propres méthodes. Pendant une dizaine d'années, Chavez a respecté ce pacte. Depuis la mort de Chavez, son successeur Nicolas Maduro se montre beaucoup moins indulgent vis-à-vis de la gestion interne du Sistema. José Antonio Abreu, qui est mort il y a 2 mois d'ailleurs, s'est aussi progressivement retiré pour raison de santé à partir de l'année 2015. Et la pression politique sur les musiciens et sur les administratifs du système A est devenue extrêmement forte depuis 2 ans, obligeant un grand nombre d'entre eux d'ailleurs à quitter le pays ces derniers mois et obligeant ceux qui sont restés à signer des actes d'allégeance au pouvoir, parfois contre leur gré.
Le système A au service du gouvernement et non plus de l'État, comme c'était le cas autrefois et le souhait de son fondateur. Et Gustavo Dudamel, la star du système A aujourd'hui, donc star internationale, qui vit à Los Angeles, et lui aussi n'est plus en odeur de sainteté dans son propre pays, le Venezuela. On l'écoute, Gustavo Dudamel, dirigé à Danson numéro 2 d'Arturo Marquez. Arturo Marquez, Danson numéro 2, c'est un compositeur mexicain qui est né au milieu du XXe siècle, qui vit toujours.
Oui.
Et donc là, le Danson numéro 2 est interprété par l'Orchestre Symphonique Simon Bolivar, dirigé par la star internationale Gustavo Dudamel, qui est donc le pur produit du Sistema. Vous racontez toute l'histoire de ce Sistema, un orchestre pour sauver le monde, Vincent Agrège. Et vous êtes notre invité chez 7 milliards de voisins sur RFI. Qui est ce Gustavo Dudamel aujourd'hui de renommée internationale ?
Alors Gustavo Dudamel, c'est un enfant de la petite classe moyenne vénézuélienne. Son grand-père était chauffeur routier, son père était musicien professionnel, mais de salsa. Il a appris dans le Sistema à jouer de la musique avant de se dirigé vers, de revenir quelque part, vers la musique de danse et la salsa. Et donc, Gustavo est né dans la musique au début des années 80. Son rêve, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était de jouer du trombone, mais il avait le bras trop court et donc on l'a mis au violon. Et il s'est révélé un violoniste extrêmement doué. José Antonio Abreu s'est rendu compte que cet enfant avait des dispositions tout à fait particulières. Il a encouragé très très tôt à diriger. En fait, Gustavo Dudamel a commencé à diriger des orchestres d'enfants quand il avait entre 10 et 12 ans. Et très rapidement, il est devenu l'un des jeunes chefs emblématiques du Sistema vénézuélien, dirigeant un grand nombre d'orchestres de jeunes. Il a été remarqué à l'étranger, notamment par de très grands chefs internationaux comme Claudio Abbado ou Simon Rattle, qui l'ont fait venir en Europe pour être leur assistant. Il est revenu au Venezuela pour devenir le directeur musical de l'orchestre le plus avancé du Sistema, l'Orchestre National Bolivar. Et il a été nommé à la fin des années 2000 comme directeur musical du Los Angeles Philharmonic, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur orchestre des États-Unis.
Ce qu'il faut bien préciser, quand on le voit sur les vidéos, c'est assez impressionnant parce que bon, il dirige plusieurs centaines de musiciens. Il n'a pas de partition, Gustavo Dudamel. Tout est de mémoire, c'est-à-dire qu'il a mémorisé pendant toutes ces années d'apprentissage des milliers de pages de partitions de musique classique.
Il n'a quasiment jamais de partition. Je l'ai vu pour quasiment la première fois. L'autre jour, il est venu donner un concert à Paris avec Los Angeles Philharmonic, diriger Amérique de Varèse avec une partition, ce qui est très très rare. Mais il a effectivement une espèce de mémoire phénoménale qui fait qu'il peut diriger des symphonies extraordinairement complexes, notamment les symphonies de Mahler ou les musiques symphoniques de Stravinsky. De tête, en ayant emmagasiné depuis des années à la fois donc la voix des cuivres, les différentes voix des cordes, et avoir tout ça dans la tête comme photographié.
Alors c'est un gars assez incroyable, Gustavo Dudamel. Je veux dire qu'il a un peu moins de 40 ans. Il a un physique métissé, probablement avec des origines afro d'ailleurs, hein. Et il a une profondeur dans ce qu'il raconte sur la passion de son métier. Voilà ce qu'il dit. Il dit notamment sur la façon dont il dirige la concentration, la mémorisation des partitions. Il dit « Cela peut paraître fou, mais on peut être à la fois pleinement là, en communion avec les musiciens, parfaitement réceptif à ce dont ils ont besoin et à ce qu'ils apportent, et en même temps emporté par des émotions, des souvenirs. C'est une grâce absolue qui tient presque du don d'ubiguïté. » Voilà dans quel état d'esprit il est quand il dirige sur une grande scène internationale.
Oui, j'ai été très frappé d'ailleurs par les différents échanges que j'ai eus avec Gustavo Dudamel, parce que je l'ai trouvé très différent de l'image qu'il peut projeter de prime abord. Il a effectivement ce côté latino très extraverti. On a entendu les musiques qu'il dirige, comme le mambo de Bernstein, comme ce danzón de Marquez, qui sont des musiques très rythmées, assez sentimentales, festives. Et j'ai eu la surprise, en échangeant longuement avec lui, de découvrir quelqu'un de très réfléchi, très profond, avec une culture très vaste, passionné de philosophie, notamment passionné par les beaux-arts, et quelque part à milieu de cette première image très directe qu'il projette. Et c'est certainement un des musiciens qui m'a donné les clés les plus fines, comme la citation que vous venez de lire, qui est pour comprendre cette espèce de mystère absolu qu'est le métier du chef d'orchestre, qui doit à la fois être un chef qui entraîne les gens et qui a une conception personnelle profonde des œuvres qu'il dirige.
Alors, vous le disiez, il est devenu indésirable dans son pays, on en a parlé tout à l'heure, il vit à Los Angeles, cela vient du durcissement, bien sûr, du pouvoir politique de Nicolas Maduro au Venezuela. Vous expliquez à de nombreuses reprises dans votre enquête comment Gustavo Dudamel et tant d'autres sont les produits d'une pédagogie, d'une façon d'enseigner, de transmettre la musique classique tout à fait particulière par rapport à nos vieux conservatoires en Europe, qui est d'abord l'enseignement, parce qu'il n'y a pas tant d'argent que cela non plus, hein, au Venezuela, pour former les enfants. C'est d'abord une transmission collective. Comment on accède aux instruments? Je crois que les enfants ont d'abord des instruments en carton, en papier, l'orchestre de papier, c'est ça?
Oui, c'est une des inventions du sistema vénézuélien. Le sistema reprend d'ailleurs des pédagogies collectives qui ont d'abord été imaginé en Asie. Il y a eu un grand précurseur de ces pédagogies, qui est le japonais Shinichi Suzuki, dans la première moitié du XXe siècle, qui a commencé à imaginer qu'au lieu d'apprendre l'instrument aux enfants de manière individuelle face à un professeur, comme on le fait dans les conservatoires en Europe, cela avait beaucoup plus de sens d'apprendre l'instrument en groupe.
Et donc on copie le voisin.
Et donc
aussi.
Voilà, donc on imite le voisin, on apprend autant du voisin que du professeur, et les pédagogues latino-américains, et en particulier ceux du Sistema, ont développé cette pédagogie et en ont fait vraiment la base d'un apprentissage large de la musique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite des cours de perfectionnement individuel. Ils sont nécessaires pour les enfants les plus doués, ceux qui veulent en particulier poursuivre la musique comme professionnels. Mais le fait de commencer par l'enseignement collectif permet de toucher un très grand nombre d'enfants qui, du coup, vont tous avoir une pratique musicale qu'ils choisiront ou non de poursuivre au fil des années. Et donc, on inverse totalement la problématique d'enseignement par rapport à ce qu'on peut connaître dans des pays comme la France, où les parents qui veulent que leur enfant apprenne la musique sont obligés à un véritable parcours du combattant pour les inscrire dans un conservatoire où il y a très peu de place.
Alors donc ensuite, ça fonctionne comme un entonnoir, c'est-à-dire que les plus talentueux, les plus accrocheurs aussi, parce que ce sont des heures et des heures de perfectionnement, de travail, avec un apprentissage aussi très académique, hein, du solfège, tout cela est très classique, même si on est au Venezuela, dans des bidonvilles.
Oui, tout à fait. Autant le démarrage est atypique grâce aux cours collectifs, grâce à l'expérience dont vous parlez tout à l'heure de l'orchestre de papier qui consiste, avant de donner des véritables instruments aux enfants, à leur donner des instruments en carton sur lesquels ils vont apprendre à prendre leur première position,
placer les mains,
se regarder les uns les autres, à prendre une première discipline collective avant de produire du son avec un véritable instrument. Le démarrage est très atypique par rapport à nos méthodes, mais après le perfectionnement rejoint les types d'enseignement dont nous avons l'habitude en Europe.
Voilà, et ça peut donner notamment la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Danse hongroise numéro 5 de Brahms, on se croirait sur France Musique. C'est évidemment dirigé par le célèbre Gustavo Dudamel, donc l'orchestre Simon Bolivar, vénézuélien, puisque nous parlons de cet orchestre pour sauver le monde. C'est le titre de votre enquête, Vincent Agrèche. Voyage au cœur du Sistema, ce singulier réseau d'écoles de musique classique au Venezuela qui a essaimé dans le monde entier la musique comme droit social, disait le fondateur du Sistema, le maestro Abreu, comme vous le prononcez si bien, puisque vous êtes entre autres hispanophone, Vincent Agrèche. Vous avez voyagé dans une dizaine de pays du monde pour cette enquête. Je voudrais qu'on donne la parole à un voisin à Kinshasa maintenant, Armand Dienguenda, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de l'orchestre Kibangiste, orchestre symphonique de Kinshasa, qui est né au milieu des années 90. Vous avez longtemps été le seul orchestre philharmonique d'Afrique subsaharienne. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
En fait, l'orchestre continue à travailler et actuellement, on est plus concentré sur la formation des enfants parce que les enfants, c'est l'avenir. On est en train de construire une école de musique, afin de faciliter la formation des enfants comme des grandes personnes également.
Alors, dans votre orchestre Kimbanguiste, bien sûr, ce sont des musiciens amateurs hein, qui ne peuvent pas vivre de la pratique de la musique classique. Ils ont autour de 25-30 ans, une centaine de musiciens, c'est ça, un peu plus avec le chœur, non?
Oui, avec le chœur, on arrive facilement au-delà de 150, même, je dirais même dans les 180. Mais l'orchestre, l'effectif de l'orchestre peut aller jusqu'à 80 musiciens si tout le monde est là.
Comment au pays de la rumba, on rassemble des gens autour d'une musique aussi étrangère que la musique classique symphonique qui nécessite des partitions, une maîtrise du solfège?
Au départ, cela ne fut pas chose facile. Mais petit à petit, les gens ont commencé par l'orchestre symphonique de trouver un intérêt commun. C'est quoi? D'abord, c'est la musique. Et puis, surtout, de voir qu'on pouvait travailler, faire quelque chose ensemble en étant plusieurs personnes. Et cela a donné directement une autre image. Parce qu'il faut se dire qu'être musicien au Congo, il y a quelques années, n'était pas une chose facile. On avait toujours cette mauvaise image. On disait que les musiciens sont des voyous, des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela. Donc, du coup, avec l'image d'un orchestre symphonique, les gens ont une autre vision maintenant de musiciens. Et les gens, petit à petit, commencent à accepter cette musique.
L'orchestre symphonique Kimbanguiste, donc, ce sont des adultes, de jeunes adultes. Vous projetez d'ouvrir une école, c'est un projet de longue haleine. Vous avez déjà mis plusieurs années à pouvoir acquérir un terrain. Votre rêve, vous le disiez, c'est de transmettre cet orchestre et d'assurer la succession des générations.
Oui, justement, parce que je fais également ce constat que beaucoup d'enfants qui viennent apprendre auprès de nous, petit à petit, ils ont une autre vision et les parents apprécient également la discipline dont l'enfant, petit à petit, le fait de travailler avec les autres, de respecter les autres, les enfants se donnent une certaine discipline. Et c'est là que les parents apprécient beaucoup avec l'orchestre symphonique. Et c'est comme ça qu'on essaye de continuer dans ce même esprit, enfin, d'aider les enfants à aller de l'avant.
Vos difficultés, c'est d'accéder à des instruments, par exemple, pour vos musiciens? Parce que c'est très cher les instruments de musique, hein, il faut bien le préciser.
C'est très difficile. Des fois même, lorsque vous avez un instrument, l'instrument peut se casser, il faut arriver à le faire réparer, il faut trouver les cordes, les accessoires, les méthodes pour la formation des musiciens et également des conditions de travail qui sont très difficiles, telles qu'actuellement l'orchestre répète, je pourrais dire, dans la cour de ma résidence. Et avec tous les véhicules qui passent dans la rue, c'est vraiment insupportable.
Ah oui, alors effectivement, on peut imaginer, parce que vu la taille de Kinshasa maintenant et la surpopulation, répéter un répertoire de musique classique au milieu des voitures, ça ne doit pas être simple. Qu'est-ce que vous travaillez en ce moment, juste, Armand Dienguenda?
Actuellement, on travaille sur la valse de l'empereur, de Strauss. Et également, on va préparer d'autres concerts pour un déplacement en Angola. Donc là, ça sera vraiment... un pot pourri, on va chercher des œuvres parce qu'on ne sait pas toujours donner un répertoire bien défini, disons une œuvre, une symphonie complète là. Oui. Parce que des fois, quand on présente une symphonie, ce ne sont pas des connaisseurs forcément qui vous écoutent, alors les gens sont perdus. C'est comme ça qu'on aime bien faire toujours un pot pourri qui permet à tout le monde de se retrouver dans ce qu'on fait.
En tout cas, bravo. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous, Armand Dienguenda, et bon voyage en Angola. Justement, Vincent Akache, vous ne vous êtes pas rendu en Afrique subsaharienne pour cette enquête, mais le système a essaimé très très peu en Afrique, il faut bien le dire, mais en Angola.
Oui, malheureusement, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de voyager encore en Afrique subsaharienne. Je suis très très admiratif de cette aventure dont Armand vient de nous parler, que je connaissais de réputation parce que ça fait plusieurs années que cet orchestre fait en Afrique un travail formidable de développement de la pratique et de développement du public. C'est vrai que les projets inspirés du Sistema sont moins nombreux en Afrique aujourd'hui que en Amérique latine, hors du Venezuela, où il représente vraiment une force d'enseignement qui touche aujourd'hui plus de 150 000 enfants à travers l'Amérique du Sud, hors du Venezuela. En Afrique, on estime qu'il y a à peu près une dizaine de milliers d'enfants qui étudient selon les méthodes du Sistema, ce qui est très peu, oui, évidemment, rapporté à la population. Mais il y a quelques projets extrêmement forts et extrêmement moteurs, comme celui qui existe, par exemple, en Angola, le projet Kaposoka, qui est né dans l'idée de contribuer à la réparation matérielle, humaine, morale du pays après les atrocités de la guerre civile.
On a l'impression tout de même aujourd'hui, quand on voit les virtuoses de musique classique, par exemple en Chine, que l'Afrique semble être le seul continent aujourd'hui hermétique à la musique classique européenne.
Malheureusement, oui, c'est l'impression qu'on peut avoir. Alors j'espère que cette impression pourra être corrigée dans les années qui viennent.
Pourtant, il y a une vraie tradition musicale, instrumentale en Afrique. Il y a des joueurs de kora extraordinaires,
virtuoses. Il y a une tradition musicale extraordinaire.
Alors pourquoi il n'y a pas de passerelle? Il y a même, on pourrait même dire, un rejet de la musique classique européenne qu'on n'observe pas en Amérique latine, alors que pourtant, il y a eu bien un rejet de la colonisation.
Oui, totalement. Alors, je me suis beaucoup interrogé sur les raisons de cette faible pénétration de la musique classique et de la musique symphonique en Afrique. D'une part, je pense que la faiblesse démographique des classes moyennes dans un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne est un élément. En Amérique latine, il y a des inégalités sociales qui sont énormes, mais dans un grand nombre de pays, les classes moyennes représentent entre 20 et 30% de la population, et elles sont un peu un socle sur lequel l'éducation musicale peut s'appuyer et sur lequel se développent des projets en direction des enfants issus des milieux les plus défavorisés. Peut-être que cette absence en Afrique rend le développement de projets sociaux d'éducation musicale plus aléatoire. Et d'autre part, c'est vrai que la musique classique européenne est regardée avec une certaine suspicion par, je pense, un grand nombre d'artistes africains eux-mêmes. Et je n'ai jamais très bien compris pourquoi la musique est vue de cette façon-là, alors que, par exemple, le genre romanesque en littérature, qui est lui-même un genre produit au sommet de l'impérialisme européen, a été acclimaté aussi bien en Afrique qu'en Asie et est devenu un mode d'expression universel. Alors que l'orchestre symphonique classique est encore trop souvent vue comme une espèce d'image de la domination coloniale.
La musique classique a essaimé le Sistema en Turquie, c'est la seule expérience dans le monde musulman. On écoute un extrait. On arrive bientôt au terme de votre récit de l'orchestre pour sauver le monde, le Sistema. Voilà, ça c'est un extrait avec de tout jeunes musiciens en Turquie.
Oui, il faut préciser.
Qui apprennent la musique.
On n'attend pas du tout la même assurance que de l'orchestre du Bolivar, qui est un orchestre très avancé qu'on a entendu tout à l'heure. Là, en Turquie, c'est un projet démarrant qui existe depuis 5-6 ans et qui regroupe pour l'instant des adolescents qui ont 14-15 ans, donc ils sont vraiment au début de leur parcours de musicien.
L'avenir du Sistema au Venezuela, dans un pays qui a complètement sombré.
C'est très difficile de prévoir ce qui va se passer aujourd'hui. Gustavo Dudamel, comme on le disait tout à l'heure, n'est plus vraiment en odeur de sainteté auprès du régime. En ce moment, il essaye de tenir une position très délicate entre le fait qu'il ne peut pas se rendre au Venezuela et le fait qu'il continue à communiquer avec les équipes là-bas. Un grand nombre de talents ont fui le Venezuela et en même temps, les activités du Sistema continuent, en particulier à Caracas. L'avenir s'annonce quand même difficile au Venezuela et pour moi, les choses sont beaucoup plus en train de bouger dans les autres pays latino-américains qui ont acclimaté le sistema, notamment la Colombie, le Pérou, le Brésil, où ces projets continuent à se développer dans un cadre démocratique et qui permet une gestion beaucoup plus transparente et un meilleur suivi des objectifs que dans un pays qui a basculé ces deux dernières
c'est
années.
C'est par le reste du continent sud-américain que finalement le sistema et cette histoire peut survivre et cette pédagogie aussi, cette façon de transmettre la musique classique dans des cultures où elle n'existait pas. En un mot, est-ce qu'avec cette enquête, on n'a pas le sentiment que cette culture de la musique classique est vraiment une émotion universelle qui peut être transmise partout ?
C'est à la fois une émotion qui peut être transmise partout et surtout une envie de la réflexion parce que la musique a cette magie particulière d'associer l'émotion initiale et le goût du travail, de la réflexion, de la connaissance, sans jamais en faire quelque chose d'hyper académique et universitaire. Et je pense effectivement que ce type d'expérience qui peut atteindre des dimensions énormes, comme on le voit au Venezuela, ou très importantes dans les autres pays d'Amérique latine, est effectivement un formidable moteur pour l'éducation en général et pour donner le goût de l'apprentissage, de la réflexion.
Et l'accomplissement de son propre destin.
Absolument.
Aussi. Merci à vous, Vincent Agré. Vous publiez Un orchestre pour sauver le monde, Voyage au cœur du sistema, du Venezuela à la France, puisqu'il y a aussi bien sûr un sistema en France, Le miracle de l'éducation par la musique aux éditions Stock. Merci d'être passé chez 7 milliards de voisins. Dans quelques instants, ce sera l'Afrique qui gagne avec le portrait d'une jeune chef d'entreprise burkinabé.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
L'Afrique qui gagne, comme chaque lundi, portrait aujourd'hui de Khadija Simboro. Elle est burkinabé, jeune directrice de l'entreprise Farafina Engineering, ingénieure diplômée du 2IE, la célèbre école d'ingénieurs panafricaine à Ouagadougou. Elle a fondé son entreprise avec son frère, également ingénieur. Ils commercialisent des services dans le domaine de l'énergie, l'eau, le solaire. Leur projet phare, qui est en train de voir le jour, a remporté en mars dernier un prix au forum Jeunesse et Emploi Vert, organisé par l'OIF 2018. Yellen Cash, c'est un système de kit solaire installé dans les habitations pour avoir de l'électricité. J'ai rencontré Khadija Simboro à Niamey, au Niger, alors qu'elle venait de recevoir son prix.
Ce projet est nommé Yellen Cash, qui vise à l'accès à l'électricité dans les milieux périurbains et ruraux à travers des kits solaires photovoltaïques avec un système de prépaiement. Ça a démarré, nous avons déjà des installations pilotes un peu partout à Ouagadougou et dans les périphéries et également dans un village. Donc du coup, la famille qui veut un système, nous lui faisons une installation. Il paye juste une caution, un peu comme un abonnement au niveau du réseau national. Et l'installation est faite. Il peut choisir en fait son mode de paiement, soit par jour, soit par mois, soit par semaine. Par exemple, nous avons un produit qui fait autour de 150 francs
jour. Pour 150 francs CFA par jour, c'est-à-dire aux alentours de 20 centimes par jour, qu'est-ce qu'on a ?
Le ménage peut avoir au moins deux lampes et charger deux téléphones par jour. Les panneaux solaires, les batteries, tous les accessoires sont fournis. Ce n'est pas de la location parce qu'à la fin, quand le ménage choisit un temps de paiement, c'est-à-dire qu'à l'arrivée à terme de ce temps, le produit lui appartient.
Au bout de combien de temps ?
Maximum 2 ans.
Quels sont les pays qui vous ont inspiré pour ce produit ?
Essentiellement l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, l'Éthiopie, oui.
Quelle est l'image des femmes entrepreneurs dans ton pays ?
Je dirais que nous sommes assez encouragées et je suis d'une famille d'entrepreneurs informels. Parce que depuis toute petite, depuis le primaire, j'aidais ma maman dans son commerce. Elle faisait beaucoup de choses à la fois. Elle faisait la coiffure, elle avait une boutique, elle avait un pressing, elle avait des cabines téléphoniques. Et elle faisait beaucoup de choses, elle avait beaucoup d'initiatives, elle avait une agence immobilière, elle faisait beaucoup de choses. Mais depuis toute petite, le courage de me battre, la motivation pour aller de l'avant, je pense que j'ai puisé beaucoup de mes forces avec elle. Parce que quand je quittais les cours, je rentrais, je déposais mon sac et hop, j'étais à la boutique, soit au salon, j'ai appris à faire la coiffure. Et là, je sais coiffer, très bien coiffer. Je vais vous coiffer avant que vous partez, si vous voulez. Oui, j'ai appris beaucoup de choses avec elle.
Qu'est-ce que vous avez appris du business en tant que telle ?
À 10 ans, je partais faire les comptes de maman. Oui, je partais l'aider à faire ses comptes le soir quand je rentrais de l'école. J'ai appris à négocier aussi parce que la boutique, les week-ends, je partais, j'ouvrais, je faisais toute la journée là-bas, je vendais. J'ai appris à négocier, à motiver le client à prendre un produit et surtout à parler, à avoir la bouche mielleuse, comme on le dit.
Comment ça? Comment on dit?
La bouche mielleuse.
C'est quoi la bouche mielleuse?
Entretenir une discussion avec quelqu'un, oui.
Donc votre mentor en affaires, c'était votre maman, aujourd'hui disparue.
Oui, malheureusement. Mais bon.
Et le papa?
Il était surtout là pour nous soutenir à l'école et tout, nous donner des conseils à chaque fois que je dois voyager, à chaque fois que je dois faire quelque chose. Il a toujours été là pour me soutenir. On a beau aller aider, faire plein de choses, mais quand on n'a pas le soutien et une figure paternelle pour nous accompagner, c'est compliqué également.
Aujourd'hui, vous avez créé l'entreprise avec votre frère. C'est une force de travailler entre frères et sœurs?
Oui, c'est une force, mais c'est épuisant parce qu'on travaille au bureau, on travaille à la maison, on travaille, on travaille, on travaille. Quand on quitte le bureau, on arrive, on est en train de travailler sur un projet, à un certain moment, on se dit « Oh, tu sais, il y a telle chose qu'on pourrait améliorer. » Et tout de suite, on commence à réfléchir et il n'y a pas d'heure pour travailler. C'est juste épuisant, mais c'est vraiment le fait d'avoir grandi ensemble, d'avoir eu les mêmes réalités, font qu'à un certain moment, on n'a pas besoin de terminer les phrases, on se comprend.
Votre objectif, quel est-il?
Avec Yelen Cash, on espère pouvoir atteindre le maximum de Burkinabés n'ayant pas accès à l'énergie, nous déployer également vers les pays voisins. Et de façon globale, on espère vraiment avoir une multinationale avec Farafina Eco Engineering et surtout créer le maximum d'emplois possibles. Accompagner d'autres jeunes à entreprendre.
Aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur de moins de 30 ans, qu'est-ce qui vous empêche de dormir parfois la nuit?
Je ne trouve pas pour le moment.
Vous dormez bien?
Oui, je dors bien.
Et qu'est-ce qui vous fait rêver?
C'est de voir qu'à chaque fois, quand je publie ou quand je fais des rencontres avec d'autres jeunes femmes, que je vois de plus en plus d'intérêt, de jeunes à vouloir suivre mes pas, à vouloir que je leur donne un coaching, que je sois leur mentor. Mon rêve, c'est de pouvoir aider d'autres personnes.
L'Afrique qui gagne, qu'est-ce que ça vous évoque?
L'Afrique qui gagne, pour moi, c'est la position de soleil à 10 heures. Il y a eu un long temps où les jeunes africains n'étaient pas au devant de beaucoup de scènes. Et je prends ce temps-là, c'est entre le lever du soleil et 10 heures. C'est long. Et là, nous sommes à 10 heures et les jeunes sont de plus en plus brillants, ils fleurissent de partout. Vous voyez, 10 heures, c'est pas loin de midi au zénith, donc nous sommes en train d'arriver au zénith. L'Afrique qui gagne, pour moi, c'est la position du soleil à 10 heures.
Merci à vous tous et merci à toute l'équipe, Arthur Tossou, Sophia Béda, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, rubrique magazine. Demain, 7 milliards de voisins, comment faire découvrir les cuisines africaines en compagnie de notre voisine, Chef Anto, que vous connaissez bien et qui prépare d'ailleurs un salon des cuisines africaines à Paris. Et évidemment, vous aurez la parole en direct. Notre standard 33 1 84 22 71 71, c'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Et c'est gratuit, bien sûr, pour nous appeler.